La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur lekiosqueapizza.com. Pour votre santé, bougez plus.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Le cri du cœur du super moscato.
Notre cri du cœur, c'est Arthur Cazaux, le Français 77e mondial que le monde du tennis a découvert cet hiver à Melbourne et qui est notre invité pour la deuxième fois déjà. Salut Arthur.
Salut à tous.
Ça nous fait plaisir que tu viennes dans le Moscato Show.
Pour la première fois physiquement.
Malheureusement, c'est vrai. Depuis ta première venue, t'as eu pas mal de galères quand même. Hein.
Ouais.
Ça n'a pas été tes meilleures semaines.
Ouais, non, après le tournoi de Montpellier, c'est sûr que j'ai pas eu de réussite sur les bobos et les pépins. Entre mon malaise à Miami et ma grosse entorse après à Barcelone, j'ai eu un peu la choumoune, comme on dit.
C'est quoi? C'est la chaleur à Miami?
À Miami, alors les médecins m'ont dit que c'était plus une accumulation entre la chaleur, une grosse fatigue aussi. J'avais accumulé pas mal de fatigue depuis le début de la saison, vu que j'avais beaucoup enchaîné. Et ils disaient que c'était une accumulation.
Tu as fait pas la fête quand même là-bas.
Ouais. non, malheureusement, j'ai même pas pu faire la fête après le tournoi.
Quand même, meilleur état que Nadal, non, quand même, physiquement.
Ouais, je sais pas t'es dans quel frais, état non. Il est. Après, je suis jeune, donc je récupère vite, mais je sais pas dans quel état physique il est actuellement, mais je suis pas non plus dans mon état de forme olympique, mais vu que je reprends. Mais...
Miami, t'as abandonné en plein match face à Harold Mayotte à cause d'un malaise.
Ouais.
Donc, chaleur, fatigue, crampe, et t'as essayé juste de t'accroupir pour récupérer, et là, boum!
C'était la première fois que je perdais connaissance. J'avais jamais connu cette sensation-là.
C'est l'altitude, non?
Comment?
C'est l'altitude.
Ouais, à Miami et Miami Beach, c'est l'altitude, elle se fait bien ressentir. Mais non, c'est la première fois que je ressentais ça, et en fait, je sentais qu'il y avait un truc qui était bizarre dans mon corps, et je sentais que je commençais à avoir quelques vertiges, et c'est pour ça que je voulais aller m'accroupir. Et d'un coup, c'est parti, et j'ai perdu connaissance quelques secondes. Et après, j'ai été pris en charge par le staff médical là-bas.
Bain d'eau froide.
Ils m'ont mis du froid direct. Et en fait, ce que les caméras n'ont pas vu après, c'est que quand ils m'ont amené au vestiaire, j'ai fait une rechute. Et c'est pour ça là, je me suis réécroulé. Et c'est là où ils m'ont emmené en brancard. À l'hôpital, et j'ai passé 24 heures là-bas, donc sous perfusion, tout ça.
Et quand t'as vu la facture, tu te dis c'est terminé ici à Miami.
Heureusement qu'on a des bonnes assurances à l'ATP, parce que j'ai même pas voulu voir les prix.
Tu vois les pompiers qui arrivent, c'est 15 000 déjà. Je vais y aller tout seul.
Pour terminer sur l'incident, à un moment, t'as dû dire j'ai un problème, enfin, t'as dû avoir peur, quoi. Tu t'es dit un truc qui cloche.
Quand j'ai eu les crampes généralisées, que je chantais dans les vestiaires et que je chantais mon cœur,
tu t'es dit j'arrête de boire.
Non, mais tu t'es dit j'ai un souci au cœur.
C'est pour ça que même eux, ils m'ont dit, en fait, j'avais la troponine, c'est une sorte de molécule, je crois, c'est un facteur du trouble cardiaque qui était assez élevé. C'est pour ça qu'ils m'ont gardé un peu à l'hôpital, mais c'est vite baissé au fur et à mesure. Donc tout allait bien. Après, j'ai passé une panel de tests, tout allait bien au niveau cardiaque, donc au moins ça m'a rassuré là-dessus, quoi.
Crampe des abdos, Vincent, t'as déjà eu ça?
Ouais.
C'est mal, ça, non?
Au plus, crime à 4 heures, il a eu
des abdos. En donne ça.
T'as déjà eu des crampes aux abdos?
Oh, je me rappelle pas, non.
Ah, mais
aux abdos, non, au CAN, oui, au CAN, comme tout le monde, mais aux abdos, je m'en souviens pas trop.
Eric, t'as eu des crampes où, toi, Eric?
Alors, moi, écoute-moi, tous les matins, quand je me lève, j'ai une crampe. Je jure, c'est impressionnant. Je comprends pas.
Qui c'est qui vient d'arriver?
Roland Garros approche. T'as été victime d'une grosse blessure à la cheville le 15 avril à Barcelone. T'en es où physiquement?
Physiquement, j'essaye de me remettre sur pied, reprendre la caisse un peu. Et là, ça va de mieux en mieux au niveau de ma cheville. J'ai repris les déplacements il y a une semaine, donc je commence à reprendre confiance sur les déplacements, les glissades surtout. Donc ça va dans le mieux.
T'es prêt à jouer 5-7 là? T'es prêt à jouer 4 heures?
Ouais, là, physiquement, alors niveau cardio, oui, je me sens prêt. Après, comment la cheville va réagir, je sais pas, parce que je me suis pas encore testé sur une durée aussi longue. Mais ce qui est rassurant, c'est que au fur et à mesure des jours, je me sens de mieux en mieux sur ma cheville. Donc on verra si j'arrive en meilleure forme le jour du match.
Sur l'entraînement, tu te bases sur les matchs, vous avez des GPS, des trucs comme ça pour savoir le kilométrage, la vitesse où vous vous déplacez, quels sont les efforts les plus utiles?
Non.
Parce qu'après, pour t'en servir à l'entraînement, bien entendu.
Ouais, alors non, on n'a pas ça sur les matchs ou les entraînements.
Ah ouais,
peut-être sur les matchs ATP, ils doivent avoir peut-être des capteurs.
Dans ton maillot, t'as pas un GPS?
Non, on n'a pas ça. Non, ça se fait pas trop dans le tennis.
Ça se fait pas beaucoup, non. Peut-être c'est pas utile, je sais pas.
Non, ça peut être utile, mais c'est vrai
parce que
nous.
Ça te mesure les distances, la vitesse aussi, voilà, plein de choses. Mais ça, c'est peut-être intéressant pour ta
préparation. Ouais, j'avais déjà eu ça plus sur des tests physiques, en fait. Quand ils nous font faire les tests physique en fin d'année, tout ça, on a tous ces capteurs. Mais c'est vrai que sur les matchs ou les entraînements, dans le tennis, ça se fait pas.
L'utilité,
trop. Ouais. Ouais, plutôt que dans. Ouais. C'est vrai que dans le foot ou le rugby, ça se fait pas mal, mais en tennis.
Quelle est ta relation avec la terre battue? C'est une surface que t'aimes bien ou t'es un peu réfractaire? On sait que des Kyrgios, des Medvedev ont été réfractaires avec cette surface-là. C'est quelque chose qui te plaît, la terre?
Moi, c'est une surface que j'aime beaucoup parce qu'il y a cet aspect physique que j'aime bien. Voilà, le physique, c'est un de mes points forts dans mon jeu et je me base beaucoup sur ça. Donc, je sais que sur terre, je peux embêter pas mal de mecs grâce à ça. Après, c'est pas la surface où j'ai eu les meilleurs résultats forcément sur le papier, vu que j'ai aussi un jeu où j'ai un bon service et des frappes assez à plat, donc les surfaces rapides, ça me convient plutôt pas mal. Mais je sais que sur terre battue, je peux embêter pas mal de mecs et je prends chaque fois du plaisir à jouer dessus.
Il n'y a pas chialé parce qu'il y a un fort rebond, quoi.
Non.
C'est un sujet qui revient souvent quand on parle de tennis dans le Moscato Show avec Vincent, qui est passionné de préparation physique. Tu aimes le physique?
Ouais.
C'est rare quand les joueurs de tennis disent j'aime la prépa physique, j'aime le physique. Le joueur de tennis aime par beaucoup c'est de jeux, etc. C'est ton truc, tu aimes t'entraîner.
Moi j'aime beaucoup, et c'est vrai que je suis un des rares à aimer les préparations foncières. J'aime bien mettre des mettre cher sur des préparations foncières, voilà, envoyer des bonnes muscu, des bons cardio. J'ai toujours eu ce goût du travail et j'ai toujours eu ce goût où je voulais être le meilleur dans tous les secteurs et physiquement ça en faisait partie. Donc
tu veux te faire mal?
Ouais.
T'arrives sur Roland Garros avec quel objectif?
Surtout me sentir bien physiquement, parce que là voilà, sur les derniers mois comme on en a parlé, j'ai pas été chanceux sur l'aspect physique. Donc déjà me sentir bien physiquement sur un court et à voir comment je vais arriver sur mon premier match, si je serai à 100% selon les douleurs, tout ça. Mais forcément je suis à Roland, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même et j'ai envie d'aller le plus loin possible, donc peu importe mon état de forme, je vais me donner à fond avec ce que j'ai le jour même et on verra bien.
Tu te dis pas, faut que je confirme que je suis un joueur de grand chelem après ton 8e en Australie? Tu te dis pas, ce serait bien de refaire au moins 8e de finale?
Bah forcément, une seconde semaine, je dirais pas non, et forcément je l'ai dans un coin de ma tête parce que comme je l'ai dit, je vais aller le plus loin possible. Je vais même pas me figer sur une seconde semaine. Si je peux aller plus loin, j'irai plus loin. Après voilà, je sais que là j'ai en 2 mois et demi, j'ai joué que 10 jeux, quoi. Donc j'aurais peut-être pas forcément au début les repères que j'aurais espéré, mais j'ai ce côté où je connais les blessures, je me connais aussi moi-même, donc je vais faire avec et on verra où ça me mène, quoi.
Arthur, ta blessure, elle t'a empêché de, je sais pas si c'est un rêve, mais de t'entraîner avec Nadal, parce que t'avais fait une demande de t'entraîner avec Nadal à Madrid. C'est ton joueur préféré sur le circuit?
C'est mon idole et ça a toujours été mon inspiration depuis que je suis petit. Moi, j'ai une histoire particulière avec ça, c'est que moi, dans ma famille, il y a personne qui a touché une raquette de sa vie. Et je suis venu au tennis grâce à Rafa, quoi. Vu que mon père regardait juste Roland Garros tous les ans, c'était le seul tournoi qu'il regardait à la télé. Et quand j'avais 3-4 ans, j'ai vu Rafa et j'ai eu un choc et j'ai commencé le tennis comme ça et j'ai jamais lâché.
Parce qu'il y a moyen de taper la balle avec lui, là, Roland, ou pas?
Je pense que ça va être compliqué là.
Il a déjà annoncé son programme, tu crois?
Ouais, je pense. Souvent les joueurs ils sont calés assez à l'avance, mais pourquoi pas? Si je le joue, s'il est dans mon tableau,
tu peux le retrouver là bientôt.
Ouais. Ben le tableau sort demain soir, donc on saura.
Tu souhaites le jouer?
Ouais, ce serait top. Ouais, j'aimerais bien le jouer. Ouais.
Il est prenable en plus, ça. Hein.
Bah Ouais, je pense, ouais.
Est-ce que tu penses qu'il est prenable? La question est sérieuse.
Oui, bah, c'est sûr, c'est pas son. Il est pas dans la forme de sa vie.
Après, lui, il pense que t'es prenable aussi. Hein.
C'est sûr. Je pense que c'est un bon tour pour lui aussi. Hein. Mais non, c'est sûr, il est pas dans sa meilleure forme. Il est en fin de carrière. Il a pas beaucoup de matchs dans les pattes. Il sort d'une longue blessure. Mais non, c'est surtout, ce serait un honneur pour moi de le jouer.
Tu le laisses gagner. Par respect, tu le laisses gagner?
Non, par respect, je le bats. Mais non, je pense que c'est le meilleur.
Par émotion, si jamais tu dois.
Bah, si, forcément, je pense qu'il y aura. Je vais ressentir quelque chose parce que ça a été mon inspiration toute ma carrière. Roland.
Il faut le jouer, là, parce qu'après, ça va être fini. C'est pour ça, en plus, il rêve. Tu dois souhaiter le prendre, là. Tu dois souhaiter. Si je pouvais le prendre, si je pouvais faire quelque chose.
T'as dû y penser 10 fois. Alors, imagine, il n'écoute pas le Moscato Show en ce moment, Rafael Nadal. Peut-être, on sait jamais. Dans un taxi, on sait jamais. T'as déjà ton plan pour essayer de le battre? Tu sais ce que tu veux faire pour battre Rafael Nadal?
Faudrait j'en discute avec mes coachs, avec mon staff, mais oui, j'aurais un plan. Je pense j'aurais un plan de jeu et je vais surtout aussi me concentrer sur moi, ce que j'ai à faire. Voilà, que ce soit mentalement, physiquement, et après adapter en fonction de la tactique que je mettrai en place.
Il a pas de point faible.
Bah Rafa, sur terre, ça va. On sait que ça va être compliqué.
Le coup droit Nadal revient. Elle peut être dure à tenir.
Demain, un gros combat. Tu vas le suivre pour ça. Est-ce que la première chose que tu vas regarder, c'est où tu es et où se trouve Nadal, ou est-ce que tu vas regarder plutôt ton tableau global?
Non,
tes adversaires potentiels, les têtes de série que tu pourrais croiser.
Non, moi je fais beaucoup match par match. Je j'aime pas trop regarder le tableau dans sa globalité. J'aime pas trop me projeter. Donc non, je vais juste me concentrer sur le match que j'aurai joué au premier tour.
Et ça te dérange pas de connaître ton adversaire? Parce qu'il y a des mecs qui ont cette psychose, ils veulent pas le connaître comme Mana. Alors, comme Mana, comme
ouais,
Mana
mais Rino, je crois qu'il est le seul à être. Lui, c'est vrai qu'il est, il est assez spécial là-dessus, et je sais pas comment il fait pour ne pas être au courant de qui joue.
Il débarque sur le court, il dit je joue contre toi.
Aujourd'hui, c'est impossible de pas savoir.
Apparemment, il arrive en Australie.
Ils sont tous au courant quand il y a Mana Rino, ils ont pas le droit de lui parler de son futur adversaire.
Tu te coupes de tout, voilà.
Mais comment tu te coupes de tout?
Mais c'est vrai. T'as pas ton téléphone?
Voilà.
Oui, mais bon, c'est long, hein, toi, un tournoi.
Tu vas jouer à Roland Garros. Si certains joueurs ou joueuses françaises qui ont parfois eu du mal à gérer de jouer à domicile, est-ce que tu le redoutes ça? Est-ce que tu as une idée de comment ça va se passer?
Alors moi, j'ai déjà eu la chance d'avoir joué deux fois le tableau grâce à des invitations déjà les années avant, et donc je peux être le premier à dire que c'est pas évident, parce que l'année dernière j'ai fait un de mes plus mauvais matchs de l'année, donc j'étais un peu déçu forcément, et je pense que
contre un Français, d'ailleurs, non?
Contre Corentin, il m'avait battu en 4-7, et c'était vraiment pas un beau match de ma part. Et je pense que, voilà, c'est le fait que ce soit
que
Roland.
Tu as goûté dans le Moscato Show, quoi, quand même, quoi, ça, c'est un fou mal, je te le dis.
Non, Corentin, c'est un très bon joueur, surtout sur terre, il a une bonne main, mais j'étais un peu déçu de ma prestation, mais je pense il y avait de l'émotion, mais en un an, il s'est passé beaucoup de choses, j'ai beaucoup évolué dans l'aspect mental et l'approche de mes matchs, et le fait d'avoir fait une deuxième semaine en Australie, ça m'a apporté beaucoup d'expérience, et je pense que j'en suis grandi de toutes ces expériences en grand chelem, et je vais aborder en tout cas d'une meilleure façon mon premier tour.
Quand tu joues sur terre battue, il y a peut-être une addiction à l'odeur, il y a des surfaces qui font que tu préfères être là-dessus. Est-ce que ça dégage quelque chose, une sensation, une odeur, un truc comme ça?
Alors une odeur, je sais pas,
une couleur, c'est sûr, ça change un peu.
Le fait de marcher dessus, le toucher avec les pieds, tout ça, c'est.
Alors déjà, ce qui est différent, c'est que les chaussures, elles sont un peu différentes vu que c'est pas les mêmes semelles. C'est des semelles avec des stries pour accrocher un peu plus. Il y a aussi le fait que ça glisse. Je vous apprends pas.
Non, mais c'est sûr, les sensations bien, parce que
je sais pas ce qu'on peut répondre à cette question.
Mais quoi? Je pense qu'elle serait utilisée dans la moyenne.
Mais la surface. Sur du gazon, il y a peut-être une addiction au gazon.
Je suis prêt à répondre à n'importe quelle question.
Tiens, question pour toi, Arthur.
Je déconne pas quand même.
Tu joues de tennis? tennis, mais tu vas voir souvent des spectacles d'humour, des ouais. one-man shows. Et je sais que Saint-Gilles-du-Fesque, avec ton papa, tu as vu Vincent Moscato en one-man il y a quelques années.
Il y a quelques
Est-ce
années.
Est-ce que c'était rigolo?
C'était bien ou pas? Dis-nous.
C'est très, très, drôle. Très poétique.
Oui.
Langage tout de
Voilà, exact. Non, on s'était régalé, avec mon père. On vous suit depuis longtemps. Donc, on écoute le Moscato Show.
Quel âge a ton papa?
Il est de 62. Donc,
il a mon âge. C'est ça, il est de notre génération.
Tu es l'an prochain, c'est Moscato se met à table.
Oui, bah, okay.
À
partir nouveau de spectacle.
Octobre, novembre, décembre, au théâtre.
Ah ben, avec après, grand ouais. plaisir.
Après, voilà. on a un tournoi assez indécis.
Par contre, tu achètes ta place, hein, il file pas d'invite, lui, je te préviens. Hein.
Si tu gagneras Langaros, tu auras une invite et ton papa, une demi-invitation.
Allez, c'est bon.
Comment tu vois le tournoi? Est-ce que tu vois un favori, toi, sur ce Roland Garros?
C'est assez compliqué dans la situation actuelle, là où il y a eu pas mal de blessures entre Sinner, Novak, tout Alcaraz. Ça, Rafa, Alcaraz. Donc, je pense que c'est dur de tirer un joueur comme favori. Mais on sait qu'il y aura beaucoup de joueurs en forme entre Zverev, Tsitsipas et tous les quatre que je viens de citer.
Comment tu vois Djoko?
Djoko en grand chelem, ça reste Djokovic, hein, ça va être
il
va rester dans les favoris, même s'il a pas beaucoup de matchs sur terre battue dans les pattes. Sur un format en 5-7, ça reste un.
Tu préfères tirer Rafa que Djoko?
C'est compliqué parce que Rafa c'est le maître de Roland Garros, Djoko c'est celui qui a gagné le plus de grands chelems, c'est compliqué pareil. De dire.
Il vaut mieux tirer Hugo Gaston, je pense.
Oh, c'est moche. Oh, Hugo. Ouais.
Pour l'instant c'est Alcaraz le favori des bookmakers. Hein.
C'est Alcaraz.
Au passage, merci beaucoup Arthur.
Merci Arthur.
Merci à vous.
On va regarder ça.
À bientôt dans le Moscato Show.
Avec plaisir.
Arthur Cazot, vous pouvez retrouver l'interview dans quelques minutes. Podcast sur rmc.fr.